La semaine dernière, nous avons lu le début de cette lettre de Paul aux Philippiens et on avait constaté ensemble à quel point l'Évangile façonnait toute la vie de l'apôtre Paul. On avait vu que l'Évangile façonne ses relations avec les Philippiens. Il est en partenariat au service de l'Évangile avec eux. On avait vu que l'Évangile façonne sa relation avec Dieu. Il a placé sa confiance en un Dieu qui peut changer, qui peut transformer, qui est tout puissant pour le faire. On a vu que l'Évangile façonne aussi sa vie de prière. Souvenez-vous, il prie pour que l'Évangile progresse dans les Philippiens, dans le cœur des Philippiens. Et aujourd'hui, dans la suite de l'Épître, on va se rendre compte que ça ne s'arrête pas là. On constate que l'Évangile façonne également ce que Paul pense de sa détention, parce qu'il est en prison au moment où il écrit cela. Et on va voir que l'Évangile façonne également ce qu'il pense de sa mort. Ça va jusque-là, la puissance de l'Évangile dans la vie de l'apôtre Paul. Paul a un seul but, c'est de vivre pour le Christ. Et il vit pour que Christ soit deux choses, annoncé partout, et glorifié dans la vie de chacun. De nos jours, on entend souvent des trucs du genre « un tel ou une telle vit pour son travail ». Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelque chose comme ça. Ou « il ou elle vit pour ses études » quand on est jeune. « Il ou elle vit pour les plaisirs que nous offre le monde ». Je ne sais pas qui parmi nous se reconnaît dans l'une ou l'autre de ces expressions. C'est vrai que peu de personnes diraient ouvertement « mais moi je vis pour mon travail ». Mais si ce n'est pas le cas, alors pourquoi est-ce qu'on vit ? Pourquoi est-ce qu'on vit ? Est-ce qu'on vit pour la retraite ? Est-ce qu'on vit pour la famille ? Pour la maison ? Pour notre patrimoine ? Pour notre épanouissement personnel ? C'est quoi exactement ce qui nous fait vivre ? Rien qu'en disant tout cela, rien qu'en le verbalisant ainsi, on se rend compte immédiatement que ça paraît un peu étroit comme but dans la vie, tout ça, si on se limite à ça. Ça paraît un peu égocentrique. C'est vrai que chacun de ces éléments a sa propre valeur, chacun de ces éléments a un intérêt, mais aucun n'a un intérêt et une importance suffisamment grande pour diriger notre vie entière et donner un sens définitif à notre vie. Alors ce matin, est-ce qu'on ne pourrait pas se laisser inspirer par l'apôtre Paul ? Il va loin, l'apôtre Paul, aujourd'hui. Il va dire « Christ est ma vie, au point que mourir m'est un gain ». Paul vit pour quelque chose qui le dépasse, qui est infiniment plus grand que lui-même, et il vit pour ces deux raisons-là, que le Christ soit annoncé et que le Christ soit glorifié. Le premier point. Christ annoncé. Paul vit pour que l'Évangile puisse progresser partout. J'ai déjà dit tout à l'heure, et puis on le répète, Paul écrit cette lettre aux Philippiens depuis une prison. On va voir que ça impacte beaucoup de choses qu'il dit. Il attend de rencontrer l'empereur. L'empereur, il l'a sollicité pour sa défense. Il souhaite lui parler, lui exposer sa vie pour répondre à ses accusations. Le fait de pouvoir solliciter l'empereur, c'était un droit que possédait tout citoyen romain, et il se trouve que Paul est citoyen romain. Autant vous dire que la situation n'est pas très bonne pour lui, et pourtant, il écrit « Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile », verset 12. Littéralement, « Ce qui m'est arrivé a plutôt servi le progrès de l'Évangile ». Alors si Paul est obligé d'écrire cela, c'est sans doute parce que certains chrétiens dans son entourage pensaient le contraire et pensaient que son emprisonnement, sa détention, était en fait une régression pour l'Évangile, un frein pour l'Évangile. Par exemple, je vous donne quelques exemples. On a tous cette image de Paul comme un formidable évangéliste, quelqu'un qui implante les églises, qui est à fond. Alors forcément, autour de lui, il y a peut-être des gens qui pensent ben, « maintenant qu'il est en prison, tout ça c'est la fin, l'Évangile ne va pouvoir que régresser ». On peut même imaginer une description un peu plus négative de la détention de Paul. Pourquoi Paul est-il retourné à Jérusalem ? Pourquoi est-ce qu'il a provoqué une émeute à Jérusalem en annonçant le Christ ? Les chrétiens ont déjà suffisamment de problèmes. Pourquoi vivre ces tensions supplémentaires avec la communauté juive ? Et maintenant, ça va en plus nous retomber dessus. Il y a les Romains qui vont nous en vouloir. Ça pourrait être ce que certains chrétiens de l'époque pensent de la détention de Paul. Une régression véritable de l'annonce de l'Évangile. En tout cas, on comprend que certains chrétiens de l'entourage de Paul puissent avoir vécu sa détention comme un coup dur. Mais quelle est la perspective de Paul ? À l'opposé de tout ça. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi au progrès de l'Évangile. Et il donne deux exemples. Si vous avez le texte derrière vos feuillets, vous pouvez suivre. Le premier exemple, il est verset 13. Premier exemple de progrès de l'Évangile. Toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. La garde prétorienne, c'est une sorte d'unité d'élite de l'armée romaine. Il y a plusieurs milliers de soldats. Alors, Paul dit toute la garde prétorienne. Je doute que tous les gardes de la garde prétorienne aient entendu Paul directement. Mais très certainement, tous ont entendu parler de lui. Si on y réfléchit bien, ça n'a rien d'improbable. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà, en lisant le livre des Actes, par exemple, on sait déjà comment Paul se comportait quand il était en prison. Quand il a été mis en détention à Philippe, justement, en acte 16, qu'est-ce qu'il a fait avec Silas pendant la nuit ? Il chantait les louanges, il chantait des chants à la gloire de Christ. Paul n'est pas un prisonnier ordinaire. Je ne sais pas si on arrive à imaginer la tête du gardien un peu. Imaginez ça. Le gardien qui revient après quelques heures de détention à garder Paul en détention. Imaginons ce garde, on va l'appeler Lucius, d'accord ? Il revient à la caserne et il dit « J'ai laissé Gaius avec Paul. » Et après Gaius, c'est à qui le tour ? Et là, il y a Quintus qui se manifeste. « C'est toi, Quintus ? Eh bien, soldat, prépare-toi, parce que Paul, tu vas voir, il a des choses à te dire. Et tu ne vas pas y couper, parce qu'il est enchaîné à côté de toi, et tu ne dois pas bouger, tu dois le surveiller. » C'est sûr que, par le bouche à oreille, Paul a dû manifester Christ auprès de ses gardes de l'armée romaine. Ils ont entendu parler de l'Évangile par Paul. Paul, ce n'est pas un dangereux criminel. Ce n'est pas un escroc que tout le monde méprise. C'est juste quelqu'un qui passe son temps à parler de Jésus, partout où il est. Parler de Jésus, ce juif crucifié à Jérusalem, est revenu de la mort 3 jours après. Il passe son temps à parler de ce Jésus qui est notre juge au dernier jour, mais qui peut nous sauver, qui nous a sauvés en mourant notre place sur la croix. Il passe son temps à parler de ce Jésus-Christ en qui, si on place notre confiance en lui, eh bien, nous sommes épargnés au jour du jugement, épargnés de la juste colère que méritent nos fautes, colère de Dieu. Voilà ce que faisait Paul en prison. Il parlait de tout ça. Pas étonnant que son histoire se colporte et par là même l'histoire de Jésus-Christ. L'emprisonnement de Paul a contribué au progrès de l'Évangile parmi les gardes. Alors avec cet exemple de garde, on peut se demander si Paul n'est pas toujours un peu dans son monde de bisounours, toujours un peu un éternel optimiste qui arrive à retourner toutes les situations à son avantage, j'allais dire. Toujours à regarder le bon côté des choses. Mais vous allez voir qu'avec le deuxième exemple de progrès de l'Évangile, on va se rendre compte que Paul n'est pas un optimiste, mais qu'il est vraiment réaliste de ce qu'il vit et de sa situation. On va voir qu'il est vraiment ancré dans la réalité de son monde. Écoutez le verset 14, on va voir que le progrès de l'Évangile, maintenant, c'est dans la plupart des frères. Écoutez ça. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. ces derniers agissent par amour, ils savent que je suis ici pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Et là, on se rend compte du réalisme de Paul. On se rend compte qu'il n'est pas un éternel optimiste déconnecté de la réalité. Il a parfaitement conscience que certains chrétiens annoncent l'Évangile avec de mauvaises intentions. Jalousie, rivalité, voire même faire de la peine à Paul. Je vous donne quelques exemples pour qu'on puisse comprendre potentiellement ce que ça a pu donner. Rivalité. Waouh, maintenant que Paul est en prison, on va avoir le champ libre. Les nouveaux vont venir dans notre église, c'est sûr, et pas dans la sienne. Jalousie. Regardez comment mon ministère d'évangéliste est béni, alors que Paul, lui, est en prison. C'est bien la preuve que sa stratégie est mauvaise. Faire de la peine à Paul. Ah, Paul, c'est un évangéliste trop clivant. Il est trop rentre-dedans. C'est de sa faute si on en est là. C'est peut-être ce type de critique que Paul a entendu envers lui. Ces gens-là ajoutent des souffrances à la détention de Paul. Heureusement, rajoute Paul, il y a quand même un groupe de personnes qui ont été motivées par la détention de Paul et qui annoncent l'Évangile avec de bonnes intentions, eux, avec des motifs purs, par amour pour les autres, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul est un réaliste, il n'est pas un éternel optimiste. Et il a parfaitement conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Et quelle est sa réaction face à ces critiques? Là aussi, exemplaire pour nous. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il se défend comme un lion enragé? Est-ce qu'il se déchaîne contre ces chrétiens qui annoncent l'Évangile avec de mauvaises intentions? Est-ce qu'il demande aux Philippiens de prendre de la distance avec ces gens-là? Non, même pas. Impressionnant sa réaction, il s'en réjouit. Qu'importe, je m'en réjouis. Le Christ est annoncé. Réaction magnifique. Christ et sa vie. Et Christ, l'apôtre est capable, grâce à cela, de voir au-delà des injustices qu'il subit. Il est capable de voir au-delà des rivalités dont il est l'objet. Il est capable de voir au-delà de la mauvaise réputation qu'on lui impute. Christ est annoncé, alors il est joyeux. Je me suis demandé ce qu'il en aurait été de nous dans les mêmes conditions que l'apôtre Paul, en particulier par rapport à ces questions de jalousie, rivalité et faire de la peine aux autres. Déjà, je me suis demandé comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres églises de la ville de Pau. Est-ce qu'on est jaloux de ces églises ou de certaines de ces églises? Est-ce qu'on aimerait que certaines ferment pour avoir le champ libre, nous aussi? Est-ce qu'on est critique envers ceux qui s'y prennent différemment que nous? Alors je sais que certains parmi nous ont un passé difficile avec d'autres églises de Pau, et d'ailleurs, oui, c'était juste. C'est vrai que l'Évangile n'est pas toujours annoncé, et il se passe des choses parfois dans les églises qui font qu'on a des bonnes raisons de vouloir les quitter. Mais en dehors de ces cas précis, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement se réjouir du fait que l'Évangile, de toute façon, est annoncé? Et si on renversait l'histoire et que c'était nous cette fois-ci, dans l'autre sens? Si c'était notre Église qui fermait? Et si c'était les autres chrétiens qui nous critiquaient et qui se réjouissaient du fait qu'on ait pu fermer? Comment est-ce que nous, on réagirait? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas moi, mais... Moi, je pense que je me laisserais vite enfermer dans une espèce de sentiment d'injustice de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'on n'aurait pas de la peine à comprendre comment de telles pensées... On aurait de l'amertume dans nos cœurs, probablement. C'est vrai qu'il est assez facile de se laisser emprisonner par nos émotions. Il est assez facile de se lamenter sur notre propre sort. Mais ici, est-ce la voix de l'apôtre Paul ? Absolument pas. L'apôtre Paul, il est physiquement en prison, mais regardez à quel point il est libre dans sa tête. Il est libre dans sa tête par rapport à l'Évangile. Il est dominé par une seule pensée. Christ est annoncé. Alors tout va bien. Alors que nous, ô combien on vit parfois dans des prisons que notre propre cerveau se construit, fabriquées par nos émotions. On est parfois bloqué par ce qu'on a vécu dans notre passé. On est parfois bloqué par ce que l'on pense que les autres pensent de nous. Mais on ne voit rien de tout ça dans le comportement de l'apôtre Paul aujourd'hui, alors qu'il en aurait des raisons. Il est en prison quand il écrit ça. Et une autre claque que je me suis prise aussi, c'est de penser que on est dans un pays libre, on n'est pas du tout inquiété par l'État. Mais si on devait choisir entre notre confort et la tranquillité de notre existence d'un côté, et de l'autre, la persécution avec les progrès de l'Évangile, qu'est-ce qu'on choisirait ? Est-ce qu'on accepterait la persécution avec les progrès de l'Évangile ? Et si la persécution arrivait, est-ce qu'on se réjouirait au final ? Ou est-ce qu'on serait plutôt dans la nostalgie de cette tranquillité perdue, constamment ? Est-ce qu'on est comme Paul, finalement ? Est-ce qu'on ne vit que pour une seule chose, que Christ soit annoncé ? Et là, ce matin, je ne sais pas vous, mais moi, je mesure à quel point il y a un fossé entre la motivation totale de l'apôtre Paul et, d'un autre côté, ma tiédeur, ou ce qu'on pourrait appeler ma retenue, notre tiédeur, notre retenue par rapport à la motivation totale de Paul. Et qu'est-ce qui nous retient au juste ? Qu'est-ce qui nous retient ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est la peur de perdre une certaine réputation que l'on pourrait avoir ? Finalement, rien à faire de tout ça. Notre seul juge, c'est Christ. Alors, vraiment qu'on puisse être encouragé ce matin, qu'on puisse être encouragé à être audacieux dans notre témoignage. Dieu a fait de grandes choses dans notre vie et personne ne peut remettre en question le témoignage qu'on pourrait apporter. Alors, on voudrait vous lancer un défi ce matin et vous allez voir dans les semaines à venir. On va bientôt redémarrer la nouvelle saison des cultes 3D. Le premier sera le 6 octobre. Alors, on a prévu des flyers. On en a commandé à peu près 200. 200 pour que vous en ayez deux chacun. Deux par personne. Deux par personne, pas pour qu'ils trônent chez vous sur une étagère ou qu'ils passent directement à la poubelle. Deux pour que chacun d'entre vous puissiez inviter deux amis, deux collègues, deux voisins. OK ? Défi. Un défi d'audace, là, en ce début d'année. D'audace pour Christ. Ils vont pas nous bouffer, nos voisins. Et on va essayer de le relever ensemble. On va essayer de le relever ensemble, ce défi. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui s'appelait Paul, qui était persécuté, il était en prison, et il n'a pas hésité une seconde. Et il y a une église aussi, Philippe, l'église de Philippe, qui était apeurée. Mais cette église, elle n'a pas hésité une seconde non plus. Il y avait des gens motivés qui ont continué à annoncer l'Évangile sans Paul. On risque absolument rien, alors pourquoi est-ce qu'on hésiterait ? Est-ce qu'on veut, oui ou non, voir l'Évangile progresser ? C'est le premier point. Et est-ce qu'on veut, oui ou non aussi, voir Christ ? Oups. Christ glorifié. Paul, il n'est pas attentif uniquement au progrès de l'Évangile autour de lui, il est aussi attentif au progrès de l'Évangile dans le cœur des Philippiens. Que Christ soit glorifié dans leur vie. Écoutez-le. Versets 18 à 21. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Alors jusqu'à présent, je vous avais peut-être donné l'impression que Paul était complètement hermétique aux critiques qui pouvaient lui être faites, complètement insensible aux autres. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Pas tout à fait le cas parce que, au verset 19, il réutilise un verset entier, texto, du livre de Job, dans la version grecque, L'Ancien Testament, qui a été écrit en grande majorité en hébreu, a été traduit dans une version qui s'appelle les Septante, a été traduit en grec. Et donc Paul réutilise un verset du livre de Job en grec de la version des Septante ici, et c'est celui-là. « Toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. » Extrait direct du livre de Job. Pourquoi ? Parce qu'il reprend exactement, il se sent exactement comme Job. Vous vous souvenez, Job, ses amis qui l'accablent en disant que s'il a tous ses problèmes, c'est de sa faute. C'est qu'il y a quelque chose de pas bien, pas bon en lui. Ou qu'il a dit quelque chose de mauvais contre le Seigneur. C'est parce qu'il l'aurait mérité qu'il souffre. Et donc, Job a confiance que tout cela aboutira quand même à son salut. Et Paul reprend ici, pareil. Preuve que, quand même, il se confronte aux critiques qu'il doit recevoir des autres chrétiens. Et il y répond d'une certaine façon en disant « Mais c'est pas vous mes juges. J'ai confiance que, plus tard, c'est le Seigneur qui me jugera. » Même si le jugement de certains est infondé, même si le jugement définitif de l'empereur est biaisé, il sait que tout cela aboutira à son salut. Il sera déclaré juste par le Seigneur au dernier jour. Et il sera aidé de quoi ? Il se sent aidé, au moment où il écrit ça, il se sent aidé des prières, par les prières des Philippiens, les Philippiens qui le soutiennent activement, et ça le porte. Et il est aussi aidé par l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ, qui renouvelle ses forces constamment. Ça, c'est pour l'avenir. Paul attend le moment où il sera déclaré juste par le Seigneur. Et dans le présent, qu'est-ce qu'il fait ? Dans le présent, verset 20, « Maintenant, ce que j'attends, c'est de manifester la grandeur de Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul est en prison, mais ce qui le tient dans son quotidien, quand il parle aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui le tient ? La gloire de Christ. Il veut manifester la gloire de Christ, à tout prix. Paul pourrait faire une fixation sur sa justification et attendre fermement le jour où il sera déclaré juste par le Seigneur. Mais non, il ne fait pas une fixation là-dessus. Maintenant, ce que je veux, c'est la gloire de Christ dans ma vie. Ça m'a refait penser un peu avec honte, ça m'a refait penser à un certain nombre de discussions que j'ai eues, où j'ai eu le sentiment de ressortir perdant de ces discussions, parce que j'ai pas réussi à faire valoir mes arguments, ou j'ai pas réussi à montrer dans la Bible que j'avais raison. Et vous savez, quand ça vous arrive, ça, je sais pas si vous refaites sans arrêt vous refaites l'historique de la discussion dans votre tête, vous moulinez sans cesse en vous disant « Ah là, j'aurais dû dire ça, là, j'avais cet argument-là et je l'ai oublié et tout. » Et ça vous mine de l'intérieur. Mais au final, je me suis dit, se miner de l'intérieur, est-ce que c'est pas de l'égocentrisme aussi ? Être convaincu que, être finalement déçu par soi-même et vouloir notre propre gloire, être capable de convaincre soi-même. Mais Paul, il s'en moque de ça, quoi. Il se moque de ça, ici. Paul, il se moque de savoir qu'il a raison maintenant ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est la gloire de Christ. Et uniquement ça. Alors là, j'ai pris cher aussi. C'est vrai que même parfois dans notre façon d'évangéliser, on pourrait avoir tendance à être centré sur soi-même et sur nos propres raisonnements et sur notre propre gloire, la propre gloire de nos raisonnements. Et Paul conclut son raisonnement avec le verset 21. Verset 21, puissance du verset 21. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je me suis demandé qui ce matin serait capable de dire ça. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est tellement la vie de Paul qu'il se sent capable de mourir tout de suite pour aller le rencontrer, tellement ça sera génial de le rencontrer. L'année dernière, avec les GBUciens et avec Élise, on vous en avait parlé à plusieurs reprises, on était descendu dans la rue pour sonder les étudiants sur le campus, et on avait organisé ce qui s'appelle un dialogue veritas avec les GBU. C'est-à-dire que pendant ce dialogue, on avait répondu aux deux questions essentielles que les GBUciens se posaient. Et l'une des questions qui avait été soulevée à ce moment-là dans ces discussions avec les étudiants, c'était le sens de la vie. Et vraiment, en dépouillant statistiquement les résultats, il y a des choses vraiment intéressantes qui émergent. Ce qui émerge vraiment et qui est crucial ici de se rendre compte, c'est que à la question « quel est le sens de votre vie ?», eh ben, il n'y a aucune réponse, nette qui émerge. On avait sondé 120 personnes, plus de 120 étudiants, et il n'y a aucune réponse nette qui émerge sur le sens de la vie. Aujourd'hui, vous avez des étudiants, vous avez je ne sais pas combien de milliers d'étudiants sur Pau qui se lèvent tous les matins, qui vont en cours, qui se préparent à devenir quelque chose, et ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Alors bien sûr, à cette question, il y a eu quand même des réponses types, des réponses auxquelles on pourrait s'attendre. Je vis pour la famille, je vis pour l'amour, je vis pour l'argent, je vis pour mon futur travail, je vis pour mon épanouissement personnel. Bien sûr, on les a eues, ces réponses, mais vraiment diluées par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense à tous ces jeunes, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans leur vie si la famille n'est pas à la hauteur, si la famille n'est pas à la hauteur de leur espérance? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie si le grand amour se fait attendre? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie si l'épanouissement personnel est finalement plus compte tenir qu'il n'y paraît à 20 ans? Et même plus que ça, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont commencer à vieillir et que les plaisirs de la vie leur seront progressivement refusés? Qu'est-ce qui va se passer quand la mort les reprendra? Eh bien, leur vie s'envolera en poussière et il n'en restera plus rien. La vie de Paul n'est pas de ce tonneau-là. La vie de Paul, elle a un sens tellement énorme que même la vieillesse et même la mort n'y changeront rien. Il suffit d'écouter son enthousiasme, écoutez ça. « Ma vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. » Le sens de la vie de Paul était tellement magnifique que rien ni personne ne pouvait le lui voler. Il vit pour le Christ. C'est le Christ qui l'a mandaté. C'est le Christ qui lui a donné le contenu de son ministère. C'est le Christ qui lui donne chaque jour les ressources pour son ministère. C'est le Christ qui est son espérance. Christ est son tout, finalement. Et si on doit poser à Paul la question, au final, ce qu'il préfère, est-ce qu'il préfère la vie ou la mort? Il a même de la peine à choisir, versets 22, 23, 24. Et au final, il prend une décision, verset 25. Et sur quels critères il prend la décision? Regardez. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Ça, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès. Est-ce que Paul pense à lui-même? Non. Il pense au progrès de Christ dans la vie des Philippiens. Et c'est ça qui le retient finalement à la vie. Paul, il est ici complètement à contre-courant de la société. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour Christ d'abord et il vit pour les autres croyants ensuite. Et il ne pense à lui qu'en dernier recours. On est loin d'une vie centrée sur soi-même, genre épanouissement personnel, plaisir et compagnie. En revanche, on est face à quelqu'un dont la vie a porté du fruit et portera du fruit jusque dans l'éternité. Quand Paul évalue sa situation du fond de sa prison, il ne prend pas en compte son besoin. Il ne prend en compte que le bien-être éternel de celles et ceux que le Seigneur lui a confiés. Et imaginez, en faisant ça, il copie le Christ. Si Christ avait pris en compte uniquement ses propres besoins, son propre intérêt, eh bien, il serait resté au ciel, auprès du Père, dans la gloire éternelle. Mais Christ, Dieu le Fils, n'a pas pris en compte son propre intérêt. Il est devenu l'homme, Jésus-Christ, que nous connaissons. Il est mort à notre place sur la croix pour payer la dette de nos fautes. Christ a fait passer ses intérêts avant les nôtres et c'est exactement l'exemple de Paul ici aussi. S'il peut servir les Philippiens, il est prêt à rester. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sens de la vie de Paul est noble et grand. Et je suppose que là aussi, on ressent avec force le décalage qu'il peut y avoir entre notre propre vie et ce que Paul véhicule ici. Quelle serait votre réponse, vous, à la question « Quel est le sens de ta vie ?» C'est vrai qu'on pourrait répondre facilement, un peu rapidement, « Ben, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Mais franchement, vous le direz ? Vous le direz ? J'ai essayé d'être honnête et je me suis dit qu'en fin de compte, moi, je dirais ma vie, ben, c'est Alexis Lamotte. Et mourir, honnêtement, c'est une grande perte, quoi. Enfin, pour moi, pas pour vous, mais pour moi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi, ma vie, honnêtement, je serais incapable de dire aujourd'hui, mais Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais j'ai encore trop de désirs que Dieu doit purifier au fond de mon âme pour pouvoir être capable de dire ça. Et si ce texte était justement l'occasion pour chacun d'entre nous de renouveler sa conception du sens de sa vie. Un sens magnifique qui défie même la mort. Vivre pour Christ, vivre pour qu'il soit annoncé, vivre pour qu'il soit glorifié dans le cœur de chacun. Vivre pour les progrès de l'évangile de Jésus-Christ. Imagine un peu, tu te lèves tous les matins en sachant pourquoi tu te lèves. Tu vas au travail en sachant pourquoi tu vas au travail. Partout où tu es, tu vises les progrès de l'Évangile. Tu veux être un bon témoin de Christ dans toutes tes relations. Parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte. Des vies gagnées à Christ. Des hommes et des femmes qui ont entendu parler de Jésus-Christ et qui se savent, qui ont compris qu'ils sont aimés par Dieu et sauvés par lui. Des hommes et des femmes qui commencent une vie nouvelle, comme toi, renouvelée. Quand je rends visite à ma grand-mère, ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur que les gènes familiaux soient tenaces. J'espère franchement que je ne serai pas comme elle. Elle a 89 ans et elle va mourir en voulant à la terre entière. À 89 ans, elle est totalement centrée sur elle-même. Elle est totalement centrée sur ses souffrances physiques que je ne minimise pas. Elle ressasse sans arrêt ses états d'âme. Elle ressasse ses blessures du passé. Elle ressasse les regrets de sa vie. Alors vraiment, que je sois pas comme elle. Quand je serai vieux, j'espère que je serai comme l'apôtre Paul, que je saurai me réjouir des progrès de l'Évangile dans le monde, que je saurai me réjouir des progrès de l'Évangile dans le cœur des gens qui seront dans mon entourage. Et j'espère que là, j'espère que je saurai le dire avant que je sois vieux et que j'ai 89 ans. Christ est ma vie. Et la mort représente un gain. Amen.